Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL avec Olivier Mazerolle. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Au lendemain de l'acte 4, les gilets jaunes, plus que jamais, attendent des actes, des paroles et des actes d'Emmanuel Macron. Lui seul peut mettre fin à la crise. Il va peut-être parler dès demain soir. Quel mot va-t-il choisir et surtout que va-t-il annoncer pour que les manifestants acceptent enfin de rentrer chez eux à quelques jours de Noël? Emmanuel Macron joue sans doute sa survie politique. Olivier, vous nous direz dans un instant ce que vous en pensez. On réécoutera Jean-Yves Le Drian qui était sur RTL aujourd'hui au grand jury. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui passe pour être un proche du chef de l'État a évoqué la mise en œuvre d'un nouveau contrat social avec un rôle accru des territoires. On le réécoutera, on débriefera. Nous appellerons Alice Toureau, elle est députée La République en marche de la Drôme. Elle fait partie de ceux dans la majorité qui disent qu'il va falloir davantage associer les citoyens aux décisions. Des citoyens, et pas seulement des gilets jaunes, qui ont déjà commencé à faire part de leurs doléances. Hier, partout en France, des petites communes ont ouvert leur mairie, des cahiers étaient à leur disposition. Nous verrons comment cela s'est passé à Chédigny, un petit village de Touraine. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier, on ne va pas y aller par quatre chemins. Un mois d'agitation sociale, de crise profonde, de revendications maintes fois exprimées, des scènes d'insurrection, de destruction qui sont en train de plomber l'économie française. Emmanuel Macron n'a plus le choix, il est au pied du mur, il doit s'exprimer demain ou mardi. Que doit-il dire, que doit-il faire pour regagner la confiance du peuple?
Eh bien, il doit impérativement changer de méthode pour retrouver cette confiance des Français et les convaincre ou tenter de les convaincre que la transformation qu'il ambitionne pour le pays se fait au bénéfice de tous et pas seulement de quelques-uns. Alors, il y a deux conditions à ça. D'abord, trouver les mots appropriés. Vous savez, le 27 novembre dernier, il avait commencé son discours qui était déjà très attendu en disant des manifestants pacifiques du week-end précédent « J'éprouve de la compréhension pour ses concitoyens ». Vous entendez la distance et la condescendance, pas étonnant dans ces conditions que ce discours ait fait flop. Donc, trouver des mots simples, des mots qui touchent, qui prouvent qu'il est au diapason de l'opinion, qui lui manifeste de l'empathie, des mots qui donnent envie de l'écouter. Et puis ensuite, des mesures concrètes sur le pouvoir d'achat, applicables dès le 1er janvier, car cette fois, il n'y aura pas pour lui de corde de rappel.
Mais pardon Olivier, j'ai l'impression que ça, vous nous l'avez déjà dit 10 fois.
Oui, mais écoutez, constatez les choses, il a déjà grillé toutes ses autres cartouches. Celle de l'attentisme dans l'espoir que le mouvement s'essouffle, ça n'a pas marché. Celle du discours sans parole ni annonce marquante, on vient d'en parler, ça n'a pas marché. Il n'a plus le droit à l'erreur parce que l'économie du pays est en grand danger. Un samedi de plus serait catastrophique. Il est donc le dos au mur, mais il a deux atouts. Même s'il y a eu des dégâts hier, l'État a montré qu'il savait réagir pour maintenir l'ordre. Emmanuel Macron n'est pas l'incarnation d'un État impuissant et donc il ne se rend pas à Canossa. Ensuite, la lassitude qui commence à gagner l'opinion par rapport aux exactions peut convaincre les gilets jaunes modérés d'entrer dans une nouvelle phase sans manifestation. Si Emmanuel Macron remplit les deux conditions dont je vous ai parlé, des mots qui touchent et des mesures concrètes, immédiate et durable sur le pouvoir d'achat.
Des mesures qui pourraient consister en quoi?
Bah écoutez, pas le SMIC, hein, puisque Muriel Pénicaud vient encore de dire que le coup de pouce était exclu, mais on peut, par exemple, je sais pas, avancer au 1er janvier les mesures sociales et la nouvelle baisse de la taxe d'habitation qui était prévue pour septembre. Imaginez, comme vous le disait votre invité tout
chef
à l'heure, une baisse combinée des charges sociales et salariales pour dégager du net qui irait dans la poche des salariés. Ça suppose en contrepartie que l'État trouve des marges budgétaires grâce à des économies. Bercy n'est pas habitué à ça, mais enfin, leurs ordinateurs peuvent aussi servir de temps en temps à ça. Alors, c'est très compliqué, c'est sûr, mais il faut bien se mettre dans le crâne qu'un échec d'Emmanuel Macron coûterait encore plus cher au pays et que pour ce qui est de son quinquennat, il serait sans doute très proche de la désintégration.
Merci Olivier. En attendant la parole du président, c'est l'un de ses ministres les plus proches qui était aujourd'hui au grand jury. Homme d'expérience qui parle peu, mais dont on sait qu'il fait partie des conseillers les plus écoutés d'Emmanuel Macron. C'est Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a estimé, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, que l'heure était grave, que la mise en cause de nos institutions exigeait une prise de conscience générale. Et pour ce qui est des solutions, il a évoqué la mise en œuvre de ce qu'il appelle un nouveau contrat social. On réécoute Jean-Yves Le Drian, on débriefe après.
Il y a un mal-être. Et c'est là le sujet.
Il révèle une prise de conscience, un sentiment profond d'inégalité. Inégalité territoriale, puisque certains de ces acteurs se considèrent comme des exclus, comme des délaissés, et des inégalités sociales. Beaucoup n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et puis aussi des inégalités face aux efforts qui sont demandés pour que la France retrouve une capacité productive suffisante et permette de la création d'emplois qualifiés. Il faut enrayer cela. Et pour cela, il faut une parole forte du président de la République.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour répondre à cette demande sociale, sachant que la France est peut-être le pays du monde où il y a déjà le plus de dépenses sociales?
Il y a un truc qui ne va pas.
Et qu'est-ce qui ne va pas?
Il y a un gros truc qui ne va pas. Parce que la France est le pays où il y a un taux de chômage important, où il y a par ailleurs les prélèvements obligatoires les plus importants, où il y a un endettement important, où il y a beaucoup de prestations sociales. Et malgré tout cela, ça ne va pas.
Pourquoi?
Ça ne marche pas. Et bien, c'est ce qu'il faut mettre sur la table. Et ce que je propose au président de la République, c'est qu'il parle de la mise en œuvre d'un nouveau contrat social. L'État-providence au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est? C'est plus la même chose qu'auparavant. Et nous sommes devant cette situation qui a provoqué les éruptions que vous connaissez, les protestations des uns et des autres. Il faut poser globalement la question du pouvoir d'achat.
Mais quelle réponse immédiate?
Il y a deux choses à faire, me semble-t-il. La première, c'est qu'il faut que le président, dans son propos français, mette le cadre et annonce des mesures fortes et immédiates. C'est le président de la République qui sera amené à dire ça. Mais il y a un dernier point qui me semble essentiel, c'est qu'on ne réforme pas un pays uniquement par le haut. Et je pense que l'heure des territoires est arrivée. Parce que la France peut se ressouder dans son unité si, dans les territoires, d'abord le dialogue a lieu, c'est ce que va initier le gouvernement, et ensuite les propositions puissent sortir pour faire en sorte qu'à partir du territoire, les grands enjeux soient expliqués, soient discutés, et qu'on puisse, en termes de ce processus, définir les nouvelles politiques publiques qui rentrent dans ce sens.
Mais pourquoi Emmanuel Macron a ignoré ces territoires? Il a fait une itinérance mémorielle pendant une semaine,
oui,
quelques semaines plus tard,
Je pense qu'il en est revenu avec cette conviction. Nous sommes dans une phase où les cahiers de doléances ont été écrits en partie. Il faut maintenant que l'on passe au cahier des solutions. Et les cahiers des solutions ne viennent pas d'en haut obligatoirement, ils viennent du débat qui a été initié, qui va être initié, qui va durer jusqu'au mois de mars, et qui ne doit pas être un débat d'entourloupe, mais qui doit être un débat de propositions qui puissent ensuite être remontées, regroupées, pour faire en sorte que l'on marche vers un nouvel État-providence, un nouveau contrat social dans le pays. C'est indispensable si on veut sortir de la crise.
Mais qu'est-ce qu'il paye, le président de la République? Est-ce que c'est sa détermination qui est devenue une obstination, sa jeunesse qui est perçue aujourd'hui comme une expérience, ou une forme d'arrogance où il pensait que, d'en haut, comme vous dites, les solutions pouvaient venir?
Le président de la République est tout sauf arrogant. Je le fréquente régulièrement. C'est un homme plein d'empathie, peut-être que ça ne se voit pas suffisamment. Ce qui nous a manqué, c'est une question de méthode.
RTL dimanche soir, le MacPol.
Avec Philippe Robuchon.
Benjamin Sportouche, RTL, Guillaume Roquette, Le Figaro, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, messieurs, Jean-Yves Le Drian, dont on dit qu'il est l'un des plus proches d'Emmanuel Macron, a parlé de nouveau contrat social. Est-ce que cela va être les mots employés par le chef de l'État? On ne sait pas, en tout cas, on voit vers quoi l'exécutif est enclin à aller.
Alors les mots employés en se disant entre nous tout à l'heure, j'espère pas, parce que c'est un peu compliqué, il faut peut-être sans doute, le gilet jaune attendre autre chose qu'un concept un peu fumeux. En revanche, ce que ça veut dire, et on en a la confirmation dans les coulisses du pouvoir, c'est que ce qui va être mis sur la table, effectivement, c'est un plan de grande ampleur, d'ailleurs qui posera des questions en termes de financement, de déficit public, d'endossement par le Premier ministre, d'un virage à gauche quand même, parce que quoi qu'on en dise, ce sera un peu ça. Donc effectivement, c'est quand même l'annonce que l'exécutif prépare pour lundi soir ou mardi soir, du lourd, comme on dit.
Guillaume.
Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Yves Le Drian était à la fois très offensif. Il montrait qu'il savait ce qui allait se préparer. Et puis, la limite de l'exercice, c'est que c'est le président de la République qui, jusqu'au dernier moment, peut annoncer le plan et voir le changer. Donc, c'est pour ça qu'on avait une impression, je trouve, un peu étonnante. On sentait bien qu'on était dans une période difficile, presque grave. D'ailleurs, il a parlé de danger pour la République, et en même temps encore d'un certain flottement, parce qu'on a le sentiment que tout n'est pas encore calé et réglé.
Et puis, encore une fois, ce que disait Christophe, c'est les mesures concrètes
on l'a poussé vers cela. Il ne veut pas y aller parce qu'il estime que ce n'est pas son rôle. Mais quand vous entendez Alain Juppé, ce matin dire attention à ne pas avoir un discours incompréhensible pour un homme, hein, il faut bien dire, qui n'a pas toujours eu les mots les plus compréhensibles en 1995, c'est dire que la parole du président de la République, elle doit être accessible, compréhensible immédiatement et surtout qu'elle doit se traduire par des, je pense, mesures sonnantes et trébuchantes. Parce que les Français, quand on leur parle, et c'est ce qu'a dit un peu Jean-Yves Le Drian, dit ben, il va falloir voir sur le long terme, mais sur le court terme, il s'exprime peu. Et c'est toute la difficulté d'Emmanuel Macron. Il a mis les Français dans une perspective de long terme. Vous verrez, d'ici la fin du quinquennat, les choses auront changé. Sauf qu'aujourd'hui, il se retrouve face à une équation que celle qu'ont rencontré tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire les gens voient la fin du mois. C'est cela qu'ils voient, dans une période en plus de fêtes où ils veulent se retrouver au réveillon, satisfaits d'avoir obtenu gain de cause sur des revendications.
Mais ce qui est intéressant en même temps, c'est qu'on voit que Jean-Yves Le Drian n'est pas un politicien. Mmh. Il est un peu à part, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est si populaire auprès des Français, c'est qu'il ne cherche pas à cacher la complexité. Mmh. Parce qu'il dit qu'il faut un nouveau contrat social et en même temps il reconnaît que la France est l'un des pays du monde où il y a déjà le plus de dépenses sociales. Et donc il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent bien aussi tout le désarroi du pouvoir en disant mais la France est un pays où la redistribution marche bien, où les prélèvements sont élevés. Alors, peut-être que c'est à cause de l'ISF, Christophe l'a interrogé là-dessus. Et de son poids symbolique. Mais c'est vrai que toute la limite de l'exercice, c'est ça, c'est que la France est déjà un pays où la machine à redistribuer est extrêmement pesante. Je rappelle qu'on est le pays occidental où il y a le plus de prélèvements obligatoires.
Quel changement quand même dans l'attitude du gouvernement. À longueur d'émission de grand jury depuis 6 mois, ils nous disent, les ministres qui viennent, c'est un problème de pédagogie. C'est la communication qui ne va pas.
Il y a un problème de cap.
Et de fond. Et de fond.
Et d'ailleurs, c'est peut-être la seule faiblesse de Jean-Yves Le Drian, c'est qu'au fond, il est particulièrement convaincant, on l'a dit notamment sur l'Europe aussi, où c'est le meilleur avocat,
il a un plaidoyer sur l'Europe qu'on n'avait pas entendu depuis des mois.
Et il faut qu'il fasse attention parce que Emmanuel Macron pourra en avoir besoin de Jean-Yves Le Drian. Pourquoi pas à Matignon si on voyait que... Non, parce qu'il faut quand même bien comprendre que ce qui se prépare, c'est important d'un point de vue économique et fiscal et budgétaire. Et que donc, je ne suis pas sûr que Édouard Philippe ait envie d'endosser un changement de cap économique qui ne correspond pas à sa ligne politique économique. Donc peut-être que Emmanuel Macron aura besoin maintenant ou avant les européennes ou juste après d'un nouveau Premier ministre. Et j'ai trouvé Le Drian tout à fait dans le bon casting.
Sauf que si effectivement il y a un tournant social, ça va être compliqué de le faire tenir avec en même temps un engagement européen, puisque la base de notre engagement européen, c'est quand même le respect de déficits sous contrôle.
Justement, Le Drian, il est parfait pour ça, parce que ça sera une caution à l'international et à l'égard de l'Europe, Le Drian, et en plus, il peut incarner ce virage social d'un Premier ministre qui vient du Parti Socialiste, le Premier ministre actuel venant de la droite, on est dans le en même temps du quinquennat.
Et puis Christophe, vous disiez, il est populaire Jean-Yves Le Drian, mais aussi peut-être parce qu'il sent des choses que d'autres ne disent pas assez, quand il dit l'heure des territoires
exactement,
est arrivée.
Vous allez en venir à ça, vous avez exactement compris, en tous les cas, ce que moi aussi j'ai compris, c'est-à-dire que c'est une manière de dire Emmanuel Macron, tu as aussi besoin du vieux monde. Ce vieux monde que Emmanuel Macron a laissé de côté. Quand on voit les tensions qu'il y a aujourd'hui avec les régions, avec les départements, cette forme de jacobinisme qu'il a réinstauré, de recentralisation, c'est cela aussi que Jean-Yves Le Drian lui dit. Peut-être aurait dû-t-on, on a toujours des regrets après une émission, le pousser davantage. Oui, c'est un avertissement. Le nouveau monde ne se fait pas sans les anciens.
C'est un petit peu la marque de fabrique de Jean-Yves Le Drian, c'est qu'il est à la fois avec une grande hauteur de vue, parlant des sujets internationaux, et en même temps très 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 concret. On voit que ça a été un élu et qu'il n'a pas oublié ça. Par exemple, quand on lui dit « Est-ce que vous soutenez les 80 km/h ?», il dit qu'il faut faire attention de prendre des mesures dont on ne mesure pas tout l'impact social. Et de toute évidence, c'était une façon de dire que c'était une erreur.
Merci Guillaume Roquette, Le Figaro, Christophe Jacubizine, TF1 LCI, Benjamin Sportouche, RTL.
Merci.
Vous avez écouté, vous aussi, Jean-Yves Le Drian, Olivier Mazerolle. On sait qu'il est très proche d'Emmanuel Macron, donc ce qu'il a dit, il n'est certainement pas sans...
Oui, mais ce qui m'a frappé, c'est sa liberté de ton. À deux occasions, il a expliqué qu'il proposait au président de la République. Moi, je n'ai pas entendu un seul autre ministre oser dire qu'il proposait au président de la République. Les autres se contentent de répéter ce qu'on leur dit de dire. Voilà, et parfois, quitte d'ailleurs à se tromper. Bon, il avait déjà dit, Jean-Yves Le Drian, qu'il fallait écouter le pays. Il dit, l'heure des territoires est arrivée. Bref, il se comporte absolument comme s'il était le directeur de conscience du président de la République, ou alors son principal conseiller, voire plus. Bah écoutez, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est un ministre en liberté qui dit des choses et qu'Emmanuel Macron doit écouter.
On va marquer une petite pause à 18h45 dans ce MacPoll. On va essayer d'aller plus loin, tiens, dans un instant, avec une députée de la majorité, une députée de la Drôme qui s'appelle Alice Toureau. À tout de suite.
RTL dimanche soir,
le MacPoll avec Philippe Robuchon.
Et nous sommes en ligne dans ce MacPoll avec Alice Toureau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée La République En Marche, députée de la Drôme. Avant d'évoquer avec vous ce que peut annoncer le président demain ou mardi, je voudrais que vous nous disiez un mot de votre quotidien en ce moment. On a vu que des élus de La République En Marche avaient eu leur domicile tagué, d'autres ont eu leur voiture brûlée, Jacqueline Dubois par exemple en Dordogne. Certains ont été introduits dans leur propriété. C'est compliqué en ce moment le quotidien d'un...
Une balle,
exactement, vous avez raison Olivier. C'est compliqué en ce moment le quotidien d'un député de La République En Marche ?
Alors c'est compliqué je crois pour tous les élus, vous savez, en ce moment. C'est pas simplement les élus de La République En Marche, parce que je crois qu'on est face à une vraie crise aussi de la démocratie représentative. Après c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus pour nous, mais je crois que c'est tous les élus qui sont visés. Moi, à titre personnel, j'ai eu la chance de ne pas avoir d'attaque physique ou de dégradation, mais évidemment je reçois énormément de menaces, d'insultes. Ça c'est un petit peu le quotidien, même si on a aussi des messages de soutien, et il faut le dire, et je remercie ceux qui m'en envoient parce que ça fait plaisir. Moi, ce que je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent, c'est que la démocratie, la liberté d'expression, c'est le droit d'échanger, mais ça n'est pas le droit de lyncher, de menacer, d'intimider, d'insulter. Ça ne justifie pas les violences. Et d'ailleurs, vous savez, il n'y a pas que les élus aujourd'hui qui sont touchés. Regardez, même ces gilets jaunes qui ont voulu aller à Matignon pour rencontrer le Premier ministre et pour discuter avec lui. Bien, ils ont aussi reçu des menaces de mort. Donc là, moi, je crois que là, ça commence à devenir dangereux quand on voit des violences verbales aussi, des menaces, parce que moi, ça me rappelle des périodes sombres de notre histoire, et que je pense qu'il faut, vraiment condamner tout ça, parce que c'est pas normal ce qui se passe, et que la révolution, elle doit se faire par les urnes, elle doit se faire par le débat, par les mots, et pas par la violence, pas par la terreur. Je crois que c'est quelque chose d'important.
Olivier Mazerolle, une
question. Oui, Madame Toureau, vous venez de la société civile, vous êtes entré en politique avec le mouvement En Marche, et dans l'espoir de faire en sorte que la démocratie représentative soit plus proche du terrain, fasse remonter davantage ce qui émane des électeurs. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
Moi, je peux pas vous dire que ça fonctionne pas, parce que moi, c'était mon engagement de départ, et j'essaye de m'y tenir tous les jours depuis le premier jour de mon mandat.
Alors globalement, je dis pas vous particulièrement, mais globalement, on voit bien que ça n'a pas fonctionné. Le président de la République lui-même reconnaît qu'il n'a pas réussi à réconcilier les Français avec ses dirigeants.
Alors, moi, encore une fois, je vous dirais pas que ça fonctionne pas, parce que les députés, moi, je peux vous en parler, je vous parlerai de mon cadre personnel, mais qui s'applique à beaucoup de mes collègues. On est sur le terrain toutes les semaines, les Français, on les rencontre tous les jours, et on vit, enfin, moi, à titre personnel, je vis à Montélimar, mais mes collègues vivent dans d'autres villes de province, où on sent aussi la fracture territoriale qui peut être décrite par les gilets jaunes, en disant, on voit pas toujours les services publics revenir alors qu'on paye des impôts, les hôpitaux, il y a de moins en moins de services, on n'a pas de réseau pour le téléphone, c'est compliqué d'avoir des transports en commun pour les trajets du quotidien. Donc nous, tout ça, on le vit, on est avec les gens, et je peux pas vous laisser dire qu'on n'est pas proche des gens et qu'on n'essaye pas de faire autrement.
Je ne dis pas que vous n'êtes pas proche des gens, je dis simplement que si vous recueillez tout cela, apparemment, vous n'avez pas été entendu au sommet par le gouvernement, et donc pourquoi ? Qu'est-ce qui cloche dans la démocratie représentative ?
Nous, évidemment, on partage ce qu'on vit sur les territoires. On échange aussi avec le pouvoir exécutif, avec le président de la République, avec les membres du gouvernement. Et je pense que les conclusions que vous tirez ce soir, moi, j'aimerais bien quand même entendre le président de la République, parce que il n'est pas du tout dit par avance, comme vous avez l'air de l'affirmer ce soir, qu'il n'est pas entendu. Évidemment, nous, on lui dit au président de la République.
Jusqu'à maintenant, espérons que mardi ou lundi, quand il s'exprimera, il prouvera qu'il a entendu, mais jusqu'à maintenant, lui-même le reconnaît. Lui-même le reconnaît que ça n'a pas fonctionné. Benjamin Griveaux, ce matin, porte-parole du gouvernement, dit « Oui, c'est vrai, on n'a pas fait les choses comme il aurait fallu ».
Ben, on essaye de faire au mieux, en tout cas. Et c'était notre engagement de départ, et c'est celui qu'on essaye de poursuivre. Et moi, je crois qu'il ne faut pas, vous savez, opposer la démocratie représentative et la démocratie participative. Il faut qu'on aille vers plus de démocratie participative, parce que ça, c'est quelque chose de positif qui s'exprime quand même, c'est que les gens ont envie de participer à la vie publique de leur pays. Moi, je trouve que ça, c'est un bon problème, et que c'est important de pouvoir travailler, co-construire avec les citoyens, mais ça ne doit pas être opposé aux élus aujourd'hui. Et puis, par rapport au message qui va être passé par le président de la République dans les prochains jours, peut-être même demain. Moi, ce que j'espère et ce que je demande, c'est qu'il nous ait entendu sur ce cri de souffrance des Français qui est exprimé depuis plusieurs semaines désormais, au-delà des violences, des menaces, etc., qui ne sont pas la majorité des Gilets jaunes. Il faut quand même le dire, et il faut que ce soit entendu aussi. Mmh. Et j'espère qu'il va répondre avec le cœur. Parce que là, le cri de souffrance des gens qui sont sur les ronds-points, ce sont des gens qui parlent avec leurs tripes. Moi, j'ai envie que le président nous réponde avec le cœur, qu'il réponde à des mots MAUX par de bons mots aussi MOTS, et puis par des actes, évidemment. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble et qu'on va pouvoir reprendre le dialogue. Et ça, c'est important aussi, je le dis pour les Gilets jaunes qui nous entendent, il faut qu'eux aussi se mettent dans une position pour dialoguer. Parce qu'on a besoin d'interlocuteurs, on a besoin de propositions pour qu'on puisse avancer ensemble.
Madame Toureau, vous ne connaissez pas probablement les détails de ce que va annoncer Emmanuel Macron, mais est-ce que vous avez une idée de la direction que cela va prendre et des points essentiels sur lesquels il va appuyer ?
Alors non, moi je ne sais pas ce qui va être dit par le président de la République, et j'écouterai avec attention comme vous dès qu'il aura pris la parole. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura un geste qui va être fait pour les gens qui travaillent et qui galèrent, parce que c'est eux qui sont sur les ronds-points aujourd'hui. C'est des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, qui s'en sortent pas alors qu'ils travaillent. Et
donc,
c'est pas possible.
Des mesures immédiates applicables immédiatement, je veux dire.
Ça pourrait être, mais je vais vous répondre.
Non, mais tel que vous le souhaitez.
Voilà. C'est ma réponse. Moi, je pense, par exemple, que la prime pour l'activité, dite la PPA, mériterait d'être augmentée, parce que c'est elle qui creuse la différence de revenus entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas, et qui valorise. Donc le travail, c'est quelque chose d'important. La désocialisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire on ne fait pas payer les charges sociales sur les heures supplémentaires qu'on avait annoncées pour fin 2019, il faudrait peut-être l'avancer dans le temps. Je veux dire, il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on accélère sur les mesures pour pouvoir redonner du pouvoir d'achat. Enfin, j'aime vraiment pas ce mot, mais pour pouvoir redonner les moyens aux Français aussi, qu'ils soient plus dans la galère. Parce que c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est les Français, surtout des milieux ruraux, qui sont en galère à la fin du mois, qui s'en sortent pas, et puis qui se sentent exclus, parce que c'est pas des citoyens de seconde zone, les Français qui vivent en dehors de Paris.
Madame Toureau, vous avez aussi parmi vos électeurs dans la Drôme, j'imagine, des agriculteurs, des non-salariés, qui à eux, encore bouclent encore plus difficilement leur fin de mois que les salariés.
Des agriculteurs qui vont peut-être d'ailleurs passer à l'action cette semaine. En tout cas, ils ont menacé.
Alors moi, les agriculteurs, je vais vous donner un exemple très récent. Je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps pour la TODE, qui a été un grand sujet aussi, vous savez, c'était pour les emplois saisonniers, parce que dans la Drôme, évidemment, on a beaucoup, beaucoup de saisonniers, parce qu'il y a beaucoup de fruits. Donc, vous imaginez bien, vous voyez comment c'est la Provence. Et donc, c'était quelque chose de très important pour eux. Moi, je les ai rencontrés. Je me suis battue avec eux, pour que cette mesure ne soit pas supprimée pour nos territoires, parce que c'était quelque chose d'important pour faire vivre nos exploitations. Donc, moi, vous savez, le dialogue avec les agriculteurs, comme avec les salariés, on l'a tous les jours, et c'est important. Et nous aussi, on mène des combats à leur côté. Et il ne faut pas nous opposer à ceux qui sont salariés ou à ceux qui sont agriculteurs, parce qu'on est avec eux et on mène ensemble des combats.
Merci Alice Toureau, députée de la Drôme, députée de La République En Marche, d'avoir accepté le jeu des questions ce soir dans le MacPol. Merci beaucoup. On va terminer avec Olivier, que vous avez vu tout à l'heure, Jean-Yves Le Drian parlait du retour des territoires. Eh bien, hier, on en a peu parlé parce qu'il y a eu les manifs, il y a eu la casse, mais des centaines de mairies partout en France ont ouvert leurs portes. Mairies des petites communes de moins de 3000 habitants, initiative de l'Association des maires ruraux. L'idée, c'était de recueillir les doléances des habitants, qu'ils soient gilets jaunes ou pas, proposition d'administrer afin de faire remonter vers les députés, les sénateurs et au final vers l'Élysée. Alors, ce n'était qu'un début, hein. On n'a pas vu les gens se presser par milliers dans les mairies, mais c'était l'occasion d'un exercice démocratique pas forcément inutile par les temps qui courent. Écoutez ce reportage de Christian Panvert, il est allé à Chédigny. C'est une petite commune de 500 habitants en Indre-et-Loire.
Malgré le vent et les averses, les portes de la mairie sont restées ouvertes toute la journée. Dans la salle du conseil municipal, sur la table, un thermos de café, du sucre, des tasses et un cahier ouvert à disposition des administrés. Pascal Duguay, le maire de Chenilly, fait partie de l'association des maires ruraux de France. Il a tout de suite adhéré à l'opération et approuve l'idée.
C'est l'occasion où chacun va trouver un petit peu sa place en disant voilà, moi j'ai des choses à dire, c'est vrai que j'ose pas les dire, alors peut-être que c'est difficile d'aller voir quelqu'un et puis lui dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Un cahier, c'est plus facile, on écrit des choses, on est moins impliqué directement, quoi. Et ça permet des fois de dire des choses qui peuvent être intéressantes et qui seraient pas dites autrement.
Quelques dizaines d'habitants ont fait le déplacement, comme Claudette, 72 ans. Elle dénonce pêle-mêle le manque d'entretien des routes dans son hameau.
Dès qu'on demande un petit peu quelque chose, tout coûte trop cher.
La hausse des prix du carburant, mais aussi sa petite retraite d'agricultrice.
777 euros.
Elle déplore ne pas avoir recours à des soins faute d'argent.
Bah regardez, comme pour les lunettes, je suis remboursée si peu, j'attends plusieurs années avant d'aller changer les verres. Les appareils d'audition, c'est pareil.
Jean-François est là, lui aussi, ancien instituteur, il apporte sa contribution.
Je me rappelle de l'histoire, je crois que précédemment il y avait eu des cahiers de doléances. Je trouve que c'est une idée judicieuse que cela se renouvelle aujourd'hui dans ces périodes de tension extrême. Je me suis simplement adressé directement au président de la République. Je lui demande de ne pas oublier la ruralité qui est un élément essentiel du tissu qui fait notre France.
Jean-François Chandelier est conseiller municipal. Il est dubitatif à la lecture des doléances.
Cahier de doléances, c'est un petit peu fort comme expression. Les choses se passent aussi des fois avec leur impréparation, leur précipitation. J'assiste à cette opération pour en être témoin. Mais je ne pense pas qu'elle soit utile.
À quelques kilomètres, 120 gilets jaunes occupent un rond-point depuis 15 jours. À l'instar de Quentin, ils n'iront pas à la mairie.
Pour moi, remplir des cahiers de doléances, c'est comme des enfants qui écrivent une lettre au Père Noël. Le Père Noël ne reçoit jamais cette lettre. Et puis, dans tous les cas, ça ne fait que contenir la tristesse et la colère du peuple. Mais en aucun cas, ça aboutira à quelque chose. Il faut rester sur des idées fortes, qu'on se batte pas pour les effets, mais qu'on se batte contre la cause.
Si l'initiative est diversement appréciée, le maire s'est engagé néanmoins à faire remonter les doléances jusqu'à la présidence.
Voilà, reportage de Christian Panvert à Chedigny en Indre-et-Loire. Ça a le mérite d'exister, même si ça n'a pas démarré du tonnerre, on va dire.
Les initiatives locales, c'est très important. Les maires sont effectivement au contact de la population, surtout dans les petites villes et les villages. Et tout ça peut être très positif à une condition, c'est qu'ils soient écoutés.
Voilà, l'heure des territoires à Dijon, Yves Le Drian aujourd'hui sur RTL. Merci Olivier Mazerolle, fin de ce MacPol. Dans un instant, l'actu à 19h avec Alexandre de Saint-Aignan. Juste après, dans les dessous de l'écran, on recevra Laurence Thiénot-Hermand, la présidente de l'AFM Téléthon, dont les dons ont nettement reculé hier, sans doute à cause du contexte gilet jaune. Puis après, dans Autoradio avec Christophe Bourreau, on vous parlera la dernière campagne de la sécurité routière lancée cette semaine. Elle incite les motards à s'équiper d'airbags. Comme dans les voitures, ça coûte cher, mais ça peut sauver la vie.
Vous écoutez RTL.